Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je me réjouis de vous retrouver encore une fois pour marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons cette semaine notre série d'entretiens réalisés avec la collaboration de la Chaire d'excellence en recherche du Canada, une seule santé urbaine de l'Université de Montréal. Notre attention se porte cette fois sur le projet Parc en santé. Cette initiative, lancée en 2024, vise la préservation des grands parcs naturels situés proches des zones urbaines et la prévention des maladies transmises par les tiques. Ces espaces nature privilégiés sont non seulement des refuges pour la faune et la flore, ils sont aussi des alliés précieux qui permettent aux visiteurs de se reconnecter à la nature et de favoriser leur bien-être. Pour nous en parler, je suis très heureux d'accueillir à l'émission la responsable du projet Parc en santé, Cécile Anisensline, professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. J'accueille également Manon Boiteux, étudiante au doctorat qui participe activement à ce projet, élaboré, je le précise, selon l'approche « une seule santé » qui reconnaît que la santé des animaux, celle des écosystèmes et celle des humains sont étroitement liées. En deuxième partie d'épisode, Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur postural, nous prodigue, dans sa chronique « Le corps en marche », de judicieux conseils concernant la santé de nos pieds, auxquels nous ne portons pas toujours l'attention qu'ils méritent. Alors, bonne écoute et bonne marche bien-être. Alors, Cécile et Manon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce merveilleux projet Parc en santé. Cécile, d'abord, parlez-nous un peu de votre parcours.
Oui, avec plaisir. Merci de l'invitation. Donc, mon nom, c'est Cécile Anisensline et puis je suis professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Donc, je suis vétérinaire de formation et mon parcours est très multidisciplinaire que moi, au niveau de la maîtrise, après, j'ai étudié en études internationales pour finalement faire mon doctorat en épidémiologie sur un sujet de santé publique qui sont les maladies transmises par les tiques. Donc, j'ai vraiment un parcours un peu atypique là, qui allie plusieurs disciplines ensemble.
Formidable. Et vous, Manon?
Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Donc, moi, c'est Manon Boiteux. Je fais actuellement un doctorat interdisciplinaire à l'Université de Montréal. Moi aussi, j'ai un profil un petit peu interdisciplinaire. J'ai une maîtrise en sciences de l'environnement à la base et j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'Université de Montréal en tant que conseillère à la recherche. Mmh. Et donc, j'ai décidé de retourner aux études. Puis, en ce moment, mon projet s'inscrit notamment dans la programmation de la chaire de recherche en une seule santé urbaine.
Alors, Cécile, parlez-nous d'abord en bref de ce projet Parc en santé.
Oui, alors Parc en santé, c'est un projet de recherche qui est relativement nouveau. On l'a lancé en 2024, au mois de février. Donc, on vient de fêter, il n'y a pas tellement longtemps, notre première année. Donc, c'est un projet de recherche qui a été développé en partenariat avec de multiples organisations, des organisations publiques, des municipalités, des gouvernements provinciaux, même une agence fédérale, le consortium Ouranos, la CEPAC. Donc, vraiment, une foule d'organisations ensemble qui ont développé un projet de recherche avec une équipe, encore une fois, multidisciplinaire de chercheurs qui proviennent de différentes universités au Québec. Et puis le but ultime de ce projet-là, c'est de développer des connaissances qui vont informer le développement de stratégies durables pour rééquilibrer la santé de l'écosystème des parcs nature périurbains et la santé des humains, soit des visiteurs et des employés qui fréquentent ces parcs-là.
Donc le lien entre la nature et l'humain.
Oui, exactement. C'est vraiment l'interface qui nous intéresse.
Excellent. Et vous, Manon, votre collaboration à ce projet, c'est quoi?
Donc moi, mon programme de PhD s'inscrit directement dans ce projet Parc en santé. On vise notamment, comme disait Cécile, à impliquer les citoyens, les visiteurs des parcs. Et l'idée, c'est un petit peu d'évaluer quels seraient les effets de cette implication-là. Donc on parle de science citoyenne, c'est le fait d'impliquer les citoyens dans la recherche. Ça peut être pour collecter des données, par exemple, ça peut être pour analyser des données. Et l'idée, ça va être, nous, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais d'impliquer les citoyens à travers des ateliers dans le projet Parc en santé. Et moi, je vais vraiment évaluer quel est l'effet de ces ateliers-là, notamment sur l'adoption de certains comportements.
Alors, Cécile, parlez-nous justement de ce lien peut-être un peu brisé entre la nature et l'humain.
Oui, bien, le lien brisé, c'est qu'on vit dans des sociétés très urbanisées. La grande majorité de la population vit dans les villes. Donc, c'est des environnements qui sont bâtis, qui sont transformés. Et donc, ce qu'il reste de la nature, bon, il y en a un peu partout éparpillé comme ça, mais la vraie nature, avec un écosystème naturel, bien, est confinée dans des, ce que nous, on appelle les parcs nature périurbains. On peut donner l'exemple, un exemple bien connu à Montréal, dans lequel on ne travaille pas présentement dans le contexte du projet Parc en santé, c'est le Mont-Royal. Donc, il y a quand même une forêt, il y a un certain écosystème naturel et c'est un parc d'accès public. Mais en étant confiné, puis il y en a peu finalement de ces petites îles vertes dans nos villes, en tout cas, surtout pas dans les grandes villes, les gens finalement vont les fréquenter pour leur divertissement, leurs loisirs. Il y a des enjeux au niveau de l'accessibilité de ces parcs-là aussi. Donc, finalement, on fréquente de moins en moins des environnements qu'on appelle naturels. Donc, ces écosystèmes qui, auparavant, faisaient partie quotidienne de notre environnement. Donc, on s'est déconnecté un peu de notre lien avec cette nature, avec aussi les animaux qui en font partie. Nous sommes des animaux. On tend à l'oublier aussi de temps en temps. Mais des animaux qui vivent séparés ou de plus en plus séparés de leur environnement naturel. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, oui, on continue à fréquenter ces environnements naturels, mais on ne voit plus ou on comprend ou on sent moins peut-être ces liens intimes qui nous unissent à la nature. Et surtout, on oublie que la santé de ces écosystèmes naturels est dépendante de la nôtre. Plutôt l'inverse, la nôtre est aussi dépendante de la leur. Donc, on est finalement, ces santé-là, la santé des animaux sauvages, domestiques et la nôtre sont intimement liées. C'est aussi ce qu'on décrit comme l'approche une seule santé. Hein. Il n'y a pas la santé des écosystèmes d'un côté, la santé des animaux et la santé des êtres humains. Il n'y a qu'une seule santé.
Quelles sont les conséquences de l'effritement de ce lien?
Bien, il y a des conséquences multiples. Dans ce qui nous intéresse, justement, dans le projet Parc en santé, c'est qu'on va, par exemple, perturber avec des activités qu'on dit anthropiques, donc de la main de l'humain ou de la main des sociétés humaines, surtout les sociétés les plus développées qui ont une tendance un peu extractiviste par rapport à la nature. Donc, on va perturber les écosystèmes naturels en fragmentant ces espaces verts. Tout à l'heure, je vous ai parlé des petites îles vertes, mais en fragmentant les environnement naturel dans des tout petits espaces, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on perturbe l'équilibre de l'écosystème. Il peut y avoir une plus grande densité de certaines espèces animales. On a entendu parler beaucoup dans les médias de l'enjeu de la surabondance des cerfs ou les chevreuils dans les parcs, justement, de la ville de Longueuil, mais même dans d'autres parcs, notamment à Montréal et ailleurs. Et donc, tout ça va entraîner toute une chaîne de perturbations. Ces cerfs-là vont brouter de façon trop importante la végétation et ça va affecter, par exemple, la régénérescence de la forêt. Donc, ces parcs nature périurbains qui nous intéressent dans le cadre du projet, bien, ils se trouvent à ne plus pouvoir se régénérer. Donc, leur durabilité dans le temps, leur équilibre est perturbé. Et il y a toute une foule d'autres conséquences à cette chaîne-là, notamment l'émergence des maladies de la faune et des maladies transmises par la faune vers l'humain, qui sont, moi, le sujet principal de mes travaux de recherche, soit les zoonoses, les maladies qui se transmettent des animaux et aux humains et vice-versa.
Oui. Quelles sont les conséquences pour l'humain de la perte ou de la détérioration de ce milieu?
Il y a des conséquences directes sur la qualité de vie. Donc, il y a plusieurs études maintenant, c'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a plusieurs études qui documentent vraiment les liens entre la santé mentale, par exemple, la santé physique et mentale, je dirais même, et l'accès et la fréquentation à des espaces naturels comme dans les parcs. Donc, on sait, par exemple, qu'en allant en nature, notre pression artérielle va diminuer, on va ressentir un plus grand calme, aussi des effets au niveau de l'anxiété, tout ça. Donc, il y a des effets directs perdre ces endroits naturels. Il y a des effets sociétaux. Par exemple, on veut prévenir les îlots de chaleur dans les grandes villes comme Montréal, mais c'est sûr qu'en allant dans un parc naturel, la température ambiante va diminuer. Donc, c'est des îlots de fraîcheur. Donc, si on détruit ces îlots de fraîcheur, au fil du temps, on va être perturbé. Et puis, bon, je reviens avec mon émergence des maladies transmises par la faune comme un autre exemple. Si on perturbe les milieux naturels, s'ils deviennent complètement déséquilibrés, c'est sûr qu'à l'échelle globale, on note une accélération de l'émergence des des zoonoses à l'échelle globale. Donc, on va parler aujourd'hui des maladies transmises par les tiques, mais il y a plein d'autres zoonoses qui sont en émergence. En ce moment, il y a des cas de rage chez les ratons laveurs qui commencent à réémerger juste un petit peu plus au sud du Québec, près de la frontière américaine.
Ah oui, oui.
On parle de l'influenza aviaire, qui est la grippe transmise, qui peut se transmettre par les oiseaux sauvages aussi,
oui,
qui créent tous les émois. Donc, il y a vraiment plusieurs exemples dans les dernières années qui démontrent un petit peu les effets sur le moyen et long terme de cette perturbation des écosystèmes naturels.
Mm-hmm. On parle de... Oui.
Ben, on pourrait aussi rajouter notamment l'enjeu, on parle beaucoup des changements climatiques, sûr que ces parcs-là nous aident à nous adapter aussi à ces changements climatiques-là. Souvent, c'est des milieux qui sont des milieux dits humides, où on en a de moins en moins et qu'il faut protéger parce que c'est des endroits qui nous permettent de capter du carbone, mais aussi
oui,
des endroits où il y a de l'eau encore. Donc, c'est aussi des endroits précieux pour l'adaptation au changement climatique, ces parcs.
C'est tout ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, mm-hmm, ces parcs-là nous rendent des services qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, ils nous aident aussi. Ils nous aident peut-être pas nous au niveau des êtres humains seulement, mais ils aident la planète à rester durable, si on veut aussi.
Ils contribuent à notre bien-être,
tout
c'est
à
ça?
Fait.
Oui, ils sont très importants.
Oui. Oui. Alors, ces parcs périurbains, est-ce qu'il y en a plusieurs autour de Montréal?
Oui, puis on pourrait déjà aussi définir ce qu'on entend par périurbain, qu'on pourrait mettre en contradiction ou en tout cas en opposition avec des parcs urbains qui se tiendraient vraiment dans des milieux très urbains. Le parc Michel Chartrand est presque plus un parc urbain parce qu'il est au milieu d'une zone très urbaine. Les périurbains, on va dire des parcs qui sont proches des zones urbaines où il y a des zones de cohabitation. Donc là, si on prend des exemples à Montréal, par exemple, dans le cadre du projet, on travaille beaucoup à Pointe-aux-Prairies, donc qui est vraiment dans l'est de l'île et plutôt le parc du Bois de l'île Bizarre qui est de l'autre côté de l'autre extrémité de l'île.
Mm-hmm. J'ajouterais peut-être que ces parcs qu'on considère parcs nature périurbains ont souvent aussi un double mandat. Donc, c'est pas seulement un espace vert, donc un parc où est-ce qu'on va retrouver un espace de jeu, quelques arbres, de la pelouse bien tondue, dans les milieux très urbanisés, comme Manon a dit. C'est des parcs qui ont souvent aussi un mandat de conservation de la biodiversité au sens plus large, comme les parcs auxquels Manon fait référence. C'est comme la plupart des parcs de la CEPAC, finalement, sont dans le contexte québécois.
On pense ici au parc du Mont-Saint-Bruno, par exemple,
exactement,
qui est un bon exemple,
oui,
qui est vaste quand même. Même, hein?
Quand même assez vaste et qui fait partie de notre projet d'ailleurs.
Ouais. Ah oui?
Santé. Ouais.
Bon.
Il y a aussi les îles de Boucherville qui sont des parcs qui sont proches de la ville de Montréal.
Et les gens qui profitent de ces espaces, ben, en fait, ce sont des familles, des individus, des touristes, c'est un peu tout le monde, hein?
Oui, ben justement, Manon, elle a observé plusieurs différences là aussi dans les qui visitent ces parcs nature périurbains dans lesquels on travaille. Donc, je te laisserai décrire ça.
Oui, c'est sûr qu'il y a une grande diversité dans les personnes qui utilisent ces parcs-là. Ça varie aussi. Par exemple, on parlait tout à l'heure des parcs de la CEPAC par rapport à des parcs plus urbains ou des parcs de la ville de Montréal, par exemple. À la CEPAC, il y a beaucoup de touristes, comme on disait, et puis ça peut être des touristes de tout type. Là, ça peut être des touristes internationaux, ça peut être des touristes d'autres provinces du Canada, ça peut être bref, une diversité de personnes. Mais il y a aussi donc les gens qu'on appellerait plus des locaux. Mais encore, là aussi, il y a des différences. Il y a des gens qui habitent très proche des parcs puis qui vont utiliser les parcs de manière hebdomadaire. Ou alors, il y a des gens qui vont habiter, par exemple, dans la ville de Montréal et qui vont aller utiliser des parcs comme le Mont-Saint-Bruno. Donc là aussi, c'est des résidents locaux, mais qui habitent pas proche des parcs. Donc là aussi, ça en fait différents usagers. Puis on a aussi des usagers qui diffèrent par rapport à leurs activités qui pratiquent dans les parcs. Il y a des gens qui vont aller faire beaucoup de sport, il y a des gens qui vont aller pratiquer du vélo, il y a des gens qui vont y aller pour faire des pique-niques en famille. Donc c'est vraiment, il y a toute cette diversité-là en termes d'usagers. Puis ce qui était aussi intéressant, c'était la diversité en termes de quand est-ce que les gens vont utiliser les parcs. Donc on voyait en semaine, ça va être plus des gens qui vont aller se promener dans les parcs après le travail ou alors pendant une pause, pendant le lunch. Et puis en fin de semaine, ça va plus être des gens qui vont profiter donc ça pour faire des pique-niques, beaucoup plus de famille, beaucoup plus de diversité culturelle aussi. Donc ça, c'était assez intéressant à regarder. Donc une grande diversité dans ces usagers-là.
On voit souvent aussi des clubs de marche, des clubs de ski de fond.
Mm-hmm.
En fait, c'est idéal en fait pour des regroupements de gens qui veulent faire de l'activité ensemble. Donc la dimension sociale est très importante aussi.
Tout à fait. Et on voyait, c'était rare d'observer des gens qui étaient seuls. On voyait quand même beaucoup des gens qui étaient, ils pouvaient être deux, trois, des familles, des groupes. Donc ça aussi, c'était intéressant. Puis un constat aussi, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes qu'on j'ai pu observer.
Et pourquoi, ça aussi, pensez-vous?
Peut-être une plus grande affinité avec la nature aussi. Oui. Des activités, encore une fois, les groupes de marche, par exemple, beaucoup des groupes de femmes. Donc, il y a peut-être de ça aussi en termes d'activités pratiquées, qui sont peut-être plus des activités pratiquées par les femmes.
Mmh. Il y a un achalandage des parcs, surtout pendant la pandémie, mais post-pandémie, on note que les gens utilisent beaucoup plus les parcs, le parc Mont-Royal, évidemment, à Montréal. C'est devenu un problème. Est-ce que c'est un peu le même phénomène en ce qui a trait au parc?
Il y a certains des parcs, oui, qui ont un enjeu de surabondance des visiteurs, en plus de surabondance de certains animaux de la faune.
Oui.
Puis ça va créer presque les mêmes problématiques, dans le sens où certaines personnes vont transgresser les règles des parcs aussi, les bonnes pratiques en termes de ne pas sortir des sentiers, ne pas perturber justement la nature de ces parcs, nourrir les animaux, etc. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que plus il y a de monde, plus les risques que ce genre de comportement survienne finalement sont présents. Donc oui, ça fait partie effectivement des enjeux que ces parcs-là vont rencontrer.
Oui, puis certains parcs avaient même instauré des quotas pour essayer de diminuer ou en tout cas d'encadrer le nombre de visiteurs. D'après ce qu'on a compris, ça commence un petit peu à diminuer aussi. Donc là, notamment les parcs de la CEPAC retournent à des chiffres qui étaient avant la pandémie. Mais pour des parcs comme la ville de Montréal, par exemple, où il n'y a pas forcément de droit d'entrée, c'est beaucoup plus difficile de connaître déjà le nombre et aussi donc pouvoir le contrôler, entre guillemets, là.
Est-ce qu'il y a un danger, justement, à ce nombre croissant de gens qui profitent de ces belles installations?
Le danger n'est pas pour les individus, mais probablement plutôt pour les parcs, comme on
pour
disait.
Les parcs,
donc,
oui.
Si on multiplie les occasions de perturber la nature qui est déjà perturbée par toutes sortes d'enjeux, dont la fragmentation, par exemple, des habitats, dont les changements climatiques aussi, qui vont avoir un impact sur les espèces végétales et animales qui vivent dans ces parcs-là aussi. Donc, c'est sûr que plus il y a de monde, incluant les animaux, plus ils risquent d'avoir des perturbations et des déséquilibres sur le long terme.
Oui. Est-ce que le comportement des gens qui visitent les parcs est un problème aussi?
C'est une bonne question, mais encore une fois, c'est difficile de trancher là-dessus parce qu'on n'a pas de chiffres forcément sur des mauvais comportements. On sait qu'il y a des comportements qui sont... c'est ça qu'il faudrait contrôler un petit peu, et on peut en citer quelques-uns, comme par exemple marcher hors des sentiers. C'est sûr que c'est pas souhaitable, parce que ça peut créer des nouveaux sentiers, ça peut poser des problèmes pour la régénération de la forêt, ça peut encourager d'autres personnes à le faire aussi, s'il y a un sentier qui commence à être tracé, qui est pas un sentier officiel. On peut piétiner des espèces qui peuvent être des espèces menacées, par exemple, au sol qu'on connaît pas tellement. Il y a aussi les enjeux de nourrissage des animaux de la faune sauvage. Donc là aussi, il y a plein de risques associés. Il y a des risques associés pour les animaux. Il y a des risques pour les humains eux-mêmes en termes de contact avec les animaux. Il y a des risques, comme on le disait, pour les écosystèmes de manière générale. Donc c'est le type de comportement, c'est sûr, qui sont des comportements qu'on aimerait éviter. Mais encore une fois... On ne sait pas, on n'a pas de chiffres encore sur quelle est la quantité de personnes qui adoptent ces comportements-là. Souvent, par exemple, pour le nourrissage, on sait que les gens, ils ne font pas ça forcément, ça part pas forcément d'une mauvaise intention en plus. Souvent, les gens, soit ils font ça par plaisir ou alors ils pensent qu'ils vont protéger l'espèce qu'ils nourrissent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en fait. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va justement regarder aussi un petit peu dans le projet pour mieux connaître ces comportements-là. Qu'est-ce qui motive les comportements? Puis est-ce qu'ils sont, à quel point ils sont problématiques aussi dans les parcs.
Alors, il semble qu'on ait un défi, on veut encourager les gens à fréquenter les parcs et en même temps, on doit les protéger. Donc, c'est un défi auquel s'attarde le projet Parc en santé. C'est bien
oui,
ça?
Oui, en plus de protéger la santé des visiteurs de ces parcs-là, on a parlé un tout petit peu des maladies transmises par les tiques. Donc, tous les parcs dans lesquels on travaille dans le cadre du projet, c'est des parcs qui vivent vraiment cette double problématique-là. Donc, d'un côté, une perte de biodiversité, des enjeux sur la conservation de l'écosystème, de la nature dans leurs parcs, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais de l'autre côté, c'est aussi des parcs qui vivent des enjeux au niveau de l'émergence des maladies transmises par les tiques. Et donc ça, c'est un phénomène qui a commencé dans les 2-3 dernières décennies là, au Canada. C'est pas propre au Québec. Mm-hmm. L'émergence de ces tiques, de ces populations de tiques qui transmettent des maladies. Et donc, dans les parcs qui sont situés les plus au sud de la province, bien, malheureusement, quand on retrouve les composantes propices au cycle de vie de la tique et au cycle de transmission des maladies que ces tiques-là peuvent transmettre, ça crée des conditions favorables, finalement, pour la présence d'un risque. Donc, dans les parcs dans lesquels on travaille, donc on a mentionné des parcs de la ville de Montréal, de la Montérégie, de l'Estrie avec le parc Yamaska. Donc, dans ces parcs-là, si vous allez profiter du parc et que vous transgressez, par exemple, les limites de certains sentiers, vous venez en contact avec la végétation, il est possible de rencontrer une tique également et que cette tique-là vous transmette éventuellement aussi une maladie. Et on voit vraiment une augmentation au niveau de la province, mais aussi du Canada, du nombre de personnes qui sont atteintes d'une maladie transmise par les tiques, particulièrement de la maladie de Lyme dans les 10, 15, 20 dernières années. Là.
Est-ce que c'est dû au changement climatique, en partie?
C'est en partie dû au changement climatique. Encore une fois, on revient à ces perturbations des écosystèmes. Mm-hmm. C'est sûr qu'on est dans une dynamique d'invasion des tiques du sud vers le nord. Hein. Donc, les tiques, c'est l'espèce Ixodes scapularis sur la côte est. Là, c'est son petit nom scientifique qui nous intéresse. Donc, ces tiques-là sont endémiques aux États-Unis sur la côte est depuis quand même de nombreuses années. Et tranquillement, au fil du temps, elles se propagent et elles envahissent des nouveaux territoires si elles trouvent les conditions écologiques propices à leur établissement. Et les agents pathogènes qui sont souvent transmis, donc ces agents pathogènes-là vont infecter certains animaux de la faune. Donc, si je prends l'exemple plus spécifique de la maladie de Lyme, c'est la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause cette maladie-là. Et cette bactérie-là, ce sont les petits rongeurs sauvages et principalement les souris à pattes blanches qui sont très abondantes dans nos environnements au sud du Québec, qui sont les réservoirs de cette bactérie-là. Donc, elle les rend pas malades nécessairement, mais quand les tiques vont aller se nourrir sur ces rongeurs-là, finalement, le rongeur va lui transmettre cette bactérie-là. Et au prochain cycle donc, de mue de la tique, quand elle va chercher un nouvel hôte, soit un animal ou un humain à piquer, bien, elle risque de retransmettre cette maladie-là aux êtres humains. Et donc, dans cette logique d'invasion, on a vraiment... Moi, j'ai un collègue qui a modélisé la dispersion de cette maladie-là. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les changements climatiques, il y a la migration aussi des oiseaux du sud vers le nord qui peuvent transporter des tiques, les laisser tomber dans des nouveaux territoires. Et encore une fois, ça va, si les conditions écologiques sont prêtes pour les accueillir, bien, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elles vont s'installer. Donc, les rongeurs qui créent aussi des conditions favorables et nos fameux cerfs, donc, qui sont aussi au centre de notre projet Parc en santé. Donc, la tique dont je vous parle, cette tique-là, bien, on l'appelle aussi la tique du chevreuil. Et pourquoi? C'est que l'adulte, pour se reproduire, c'est vraiment sur le cerf de Virginie qu'elle va trouver l'âme sœur, se reproduire, tomber au sol, pondre 3000 œufs. Et donc, c'est sûr que dans des environnements favorables, encore une fois, si on retrouve les conditions propices et si on est dans une situation d'abondance ou de surabondance de cerf de Virginie dans des endroits très restreints, on risque d'augmenter la quantité de tiques qui se retrouvent dans les espaces très fréquentés par le public, comme les parcs nature périurbains.
Mais écoutez, on prend une courte pause musicale, à la suite de laquelle nous parlons des stratégies durables pour justement rééquilibrer la santé des humains et préserver l'écosystème. Alors, nous sommes de retour en compagnie de Cécile Anizenslin et de Manon Boiteux. Cécile, parlez-nous encore un tout petit peu de ces stratégies avant de passer aux ateliers de Manon.
Oui, bien, parfait. Donc, comme je l'ai dit, le projet vise vraiment à aider les parcs à identifier quelles seraient les stratégies les plus durables, finalement, pour rééquilibrer les problématiques dont on a parlé, notamment celle de l'émergence des maladies transmises par les tiques et celle de la préservation de la biodiversité et surtout contrer les problèmes liés à la surabondance des cerfs de Virginie. Donc, on a plusieurs axes de recherche dans le cadre du projet Parc en santé. Un de ces axes-là s'intéresse justement aux serres et à leur impact sur la régénérescence de la forêt. Et donc, on a une partie du projet qui va viser à mieux comprendre finalement comment les serres se déplacent dans un environnement justement périurbain, à quel point ils vont ou pas se déplacer entre ces petites îles vertes, nos parcs nature périurbains, lorsqu'ils sont en grande quantité dans le parc, mais aussi suite à des interventions. Il y a eu des interventions pour diminuer la quantité des serres dans les parcs, certains des parcs dans lesquels on travaille. Donc, à quel point cette diminution de la quantité de serres dans ces parcs-là va avoir un impact finalement sur leur déplacement. Donc, évidemment, à terme, l'idée, c'est aussi d'informer des futures stratégies pour pouvoir régulariser, stabiliser une population de serres de Virginie dans l'ensemble de ces parcs-là. Pour l'aspect aussi de mesurer, on a un projet qui va s'intéresser à développer des indicateurs finalement végétaux pour essayer de mesurer l'impact du surbroutage sur la capacité de régénérescence de la forêt. Donc, il y a un projet d'une étudiante qui travaille dans le projet qui va planter, elle, certaines espèces végétales et mesurer au fil du temps à quel point ces nouveaux petits plants d'arbres, c'est des bébés arbres finalement, vont avoir été ou non broutés et dans quelle proportion finalement ces plantes-là vont être broutées en fonction, encore une fois, de la quantité de serres présentes dans l'environnement. Donc, à terme, cette stratégie-là peut aussi permettre au parc de développer des indicateurs plus fiables ou plus durables pour vraiment suivre, justement, la régénérescence de la forêt dans le temps. Donc, ça, c'est notre axe sur les serres de Virginie. On a un axe aussi plus sur la relation entre les serres et les tiques, donc qu'on gère à la Faculté de médecine vétérinaire avec plusieurs autres collègues. Donc, je ne l'ai pas dit, mais pour ce qui est des serres, c'est vraiment dirigé par des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, dont Martin Leclerc, et de l'Université Laval aussi avec Jean-Pierre Tremblay. Et puis, de notre côté, dans notre équipe TIC, on est une équipe aussi multiple. Donc, on va avoir Catherine Bouchard de l'Agence de la santé publique du Canada avec Patrick Layton, mon collègue Jean-Philippe Rochelot. Et ensemble, donc, on va regarder deux choses. D'une part, comment les changements dans l'abondance des serres dans ces parcs-là, avec les opérations de contrôle, vont avoir un effet ou non sur l'abondance des tiques qu'on retrouve dans les parcs et aussi sur la prévalence d'infection de ces tiques-là avec des agents pathogènes. Donc, dans quelle mesure, finalement, réduire les serres peut mener à une réduction des risques pour les êtres humains. C'est un petit peu l'objectif de ce projet-là. Donc, ça, c'est le projet de recherche d'une étudiante aussi.
Très intéressant.
Jessica Hainaut. Oui. Et puis, l'autre volet va regarder justement si on peut combiner cette fois-ci l'exclusion des serres de certains endroits dans le parc par le biais des exclos. Donc, un exclos, qu'est-ce que c'est? C'est des barrières qui sont installées dans les parcs naturels, dans certains endroits qu'on voudrait particulièrement conserver. Donc, les serres ne peuvent plus accéder à cet endroit-là. Donc, ça permet de protéger certaines parties des parcs et surtout des espèces végétales qui sont à l'intérieur et qui ne peuvent donc pas être broutées. Donc, ce qu'on pense, donc notre hypothèse, c'est qu'avec cette stratégie-là aussi, le nombre de tiques à l'intérieur de ces exclos devrait diminuer parce que les serres ont un impact sur l'abondance des tiques. Et donc, si on était capable, en plus d'exclure les serres, d'ajouter une intervention qui viserait à traiter les rongeurs sauvages contre les tiques, je vous rappelle que je vous ai expliqué tout à l'heure que ces rongeurs-là sont aussi les réservoirs de la bactérie qui cause la maladie de Lyme chez l'humain. Oui. Donc, en traitant les rongeurs sauvages avec un acaricide, donc un produit que les rongeurs vont manger avec un petit appât, ils mangent, il y a un médicament dedans, ça les traite contre les tiques. Le cycle de transmission de cette maladie-là devrait ralentir, voire cesser à l'intérieur de ces endroits. Et donc, on pourrait avoir aussi un impact finalement sur les risques de transmission d'agents pathogènes vers l'humain. Donc, on teste cette combinaison de stratégies, exclusion des serres et traitement des rongeurs, dans certains des parcs dans lesquels on travaille avec le projet Parc en santé. Et si ça fonctionne, ça pourrait être justement une des stratégies aussi d'intervention durable qui pourrait être proposée dans une boîte à outils finalement pour les gestionnaires des parcs qui vivent cette double problématique-là. Mm-hmm. Donc, c'est une stratégie qui va à la fois répondre au problème de perte de biodiversité due au surbroutage et à l'émergence des maladies transmises par les tiques.
Et la durée de ce programme de recherche?
La durée, c'est une bonne question. Donc, Parc en santé est financé actuellement pour une durée de 5 ans par le CRSNG, le Conseil de recherche, le Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, avec une composante, donc le volet de sciences citoyennes dont je n'ai pas parlé, mais dont Manon va parler tout à l'heure, lui est financé par l'organisme, le consortium Uranos, qui s'intéresse aussi au projet, étant donné que notre projet s'insère vraiment dans une dynamique d'adaptation au changement climatique dans une échelle plus globale. Donc, Uranos finance aussi ce volet-là. Mm-hmm.
Alors, Manon, on passe à votre projet, les ateliers, pour sensibiliser un peu la population, pour leur permettre un accès, pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, à vous la parole.
Oui, super, merci. Ben, j'irais même plus loin que sensibiliser. Le but des ateliers aussi, c'est vraiment d'engager les citoyens, puis notamment les utilisateurs de ces parcs-là. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Les citadins ont peut-être un petit peu perdu cette connexion avec la nature, mais aussi, il y a une volonté de se reconnecter, notamment par le fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans ces parcs-là. Donc, l'idée de nos ateliers, c'est vraiment aussi d'outiller ces citoyens-là pour qu'ils puissent autant se protéger eux-mêmes. Donc, on parlait par rapport aux tiques et aux maladies transmises par éthique, mais aussi qu'ils puissent jouer un rôle dans la conservation des écosystèmes. Donc, on a des comportements qu'on peut adopter, comme on le discutait, de rester sur les sentiers, de ne pas nourrir les animaux, qui sont autant bénéfiques pour la propre santé des humains que pour la santé des parcs. Donc, nous, l'idée, ça va vraiment être d'organiser 3 ateliers dans chacun des parcs du projet. Donc, ces ateliers-là vont durer à peu près 2 heures. Et l'idée vraiment dans ces ateliers-là, c'est à chaque fois d'outiller les citoyens, leur faire comprendre, par exemple, les liens entre leur propre santé et la nature. Ça va vraiment être le premier atelier. Aussi, comprendre quelles sont les perspectives des citoyens dans les parcs. Eux, qu'est-ce qu'ils voient comme des choses qu'ils aiment dans leur parc? Qu'est-ce qu'ils voient comme des enjeux? Et discuter de ça avec eux. Le deuxième atelier va vraiment être plus ciblé sur justement quels sont les gestes à adopter pour se protéger par rapport aux tiques et par rapport aux maladies transmises par les éthique, puis quels sont les liens, on en parlait aussi tout à l'heure, avec les changements climatiques, c'est quoi le cycle de vie d'éthique. Donc les gens aient les connaissances qui soient nécessaires pour adopter des comportements qu'on dit préventifs, comme par exemple regarder sur soi après être allé en promenade, utiliser certains insecticides, par exemple certains insectifuges pour se protéger, mettre des pantalons longs, les mettre dans ses chaussures, oui. etc. Donc tout ce genre de comportement-là qu'on va leur faire pratiquer aussi pour qu'ils aient vraiment une expérience durant ces ateliers. Puis le dernier atelier est un petit peu plus un atelier intégrateur, où là, on va parler notamment du cerf et de son impact sur les écosystèmes, sur les parcs, et discuter avec les citoyens de quelles solutions on pourrait apporter justement à cette problématique-là.
Mmh. Comment se déroule l'atelier? Est-ce que c'est dans un lieu fermé ou justement on se promène dans le parc?
L'idée, c'est que dans tous nos ateliers, on va avoir une balade dans le parc pour illustrer, justement, on va vouloir faire marcher aussi les gens.
Oui, oui.
Ça, c'est vraiment l'idée aussi derrière, qu'ils découvrent ou redécouvrent leur parc. Donc, en fonction des thématiques qu'on va avoir, comme je disais, là, par exemple, le premier atelier, on va un petit peu plus centrer ça sur une balade dans le parc, sur qu'est-ce qu'ils apprécient autour notamment du chalet. La deuxième activité, on va amener les gens à aller chercher potentiellement des tiques, ou en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés à participer avec nous, mais on va leur montrer un petit peu, par exemple, dans quel endroit il y a plus de risques de trouver des tiques par rapport à d'autres endroits, avec une technique spécifique que nous, on utilise pour faire la surveillance des tiques. Donc, leur montrer aussi nous ce qu'on utilise comme terme d'outil dans la recherche pour ces différentes problématiques-là. Et le dernier atelier, on va par exemple aller voir qu'est-ce que c'est qu'un exclos. On va vouloir montrer aux gens ce type d'installation-là, qu'est-ce qui se fait aussi déjà dans les parcs. Il y a des parcs comme Amiche à Chartrand où il y a déjà de la régénération qui se fait. Donc aller voir ça avec les citoyens, puis leur expliquer ces différentes... pourquoi est-ce qu'on a besoin d'agir aussi dans les parcs.
Mm-hmm. Et il y a un échange, j'imagine, avec les participants là, pour vraiment bien comprendre.
Tout à fait. Puis on veut aussi créer du lien entre nos participants. Donc, ils vont avoir des petites activités en groupe. L'idée, ça va toujours être que ce soit très interactif aussi. Encore une fois, on veut que les gens aient des expériences liées à ça. Donc, vraiment les faire participer à même construire des choses qui vont servir de manière générale dans le projet Parc en Santé.
Cécile, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, c'était très bien expliqué. Donc, c'est le volet d'axe de sciences citoyennes qui, pour moi, je le vois comme le liant, finalement, entre nos axes de recherche plus de sciences appliquées, là, avec nos TIC d'un côté, nos serres, les liens avec la biodiversité, les maladies émergentes. C'est notre axe social. C'est notre axe qui va aussi promouvoir le changement dans les comportements des visiteurs. On espère développer du matériel aussi qui va pouvoir être réutilisé par les parcs, par les équipes qui font l'animation, par des OBNL qui font de la vulgarisation scientifique, qui font de l'animation, par exemple, auprès des jeunes aussi, des camps de jour. Donc, c'est vraiment notre objectif à terme, c'est de développer aussi avec ces ateliers-là du matériel durable qui va pouvoir être réutilisé.
Oui, puis je pourrais ajouter que c'est moi qui parle aujourd'hui devant le micro, mais que ces ateliers-là, on les a vraiment développés en collaboration avec tous ces acteurs. Puis c'est aussi le but du projet, d'avoir vraiment ces différentes perspectives-là. On avait même des citoyens qui étaient impliqués dans la création de ces activités pour que ça réponde aussi à un besoin, puis que ça prenne en considération ces différentes perspectives-là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe aussi. Mm-hmm. Puis l'idée, c'est que ce soit plus facile aussi à le transférer par la suite.
On parlait de comportement. Est-ce qu'on veut modifier le comportement des visiteurs des parcs? Et comment? Et pourquoi?
C'est ça, c'est une vaste question. On pourrait en parler longtemps, mais comme on le disait, c'est que les gens sont à risque. Puis il y a certainement différentes causes liées à ça. Peut-être que les gens sont moins informés sur les risques qu'ils courent, donc ils ont besoin de plus d'informations. Ils se sentent peut-être moins outillés. Ils ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ou ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir se protéger. Donc, c'est vraiment l'idée de leur apporter ces différents outils-là, finalement, les connaissances, les capacités. Puis, une dernière chose qui, pour nous, semble important aussi, c'est la motivation. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils adoptent ces comportements-là? Notamment dans une perspective que ça a un rôle à jouer dans la conservation des écosystèmes, ça a un rôle à jouer dans leur propre santé. Et donc c'est ça vraiment l'idée aussi de parler de l'importance qu'un citoyen peut jouer dans la conservation des écosystèmes.
Est-ce qu'on pourrait parler aussi de la faune? C'est quoi la faune? On a parlé des cerfs, on a parlé des petits rongeurs, mais la faune, elle est quand même beaucoup plus abondante que ça, là, au niveau de la variété des espèces.
Oui, la faune, ça, par définition, comprendrait l'ensemble des animaux sauvages et même domestiques, là, selon les définitions, qui sont présents dans une région donnée. Donc, c'est sûr que dans nos parcs nature périurbains dans lesquels on va travailler, c'est quand même des écosystèmes où on va retrouver relativement le même type d'espèces animales, parce qu'on est dans des forêts feuillues ou mixtes du sud de la province. Donc, c'est des habitats avec les espèces qu'on connaît bien quand même au Québec, qui peuvent varier un petit peu d'un parc à l'autre. Donc oui, tout ce qui est serre de Virginie, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces parcs-là ont des cerfs, en bénéficient, mais aussi vivent des enjeux avec cette abondance de cerfs, vont avoir en grande quantité des différentes espèces de rongeurs sauvages, ou même on peut élargir ça à des micro-mammifères, donc certaines autres qui ne sont pas nécessairement des rongeurs, mais qui peuvent aussi être piquées par des tiques, des espèces qui vont se déplacer au sol, une grande diversité d'oiseaux qui sont aussi des réservoirs là, de différents agents pathogènes qui peuvent se transmettre par des tiques. Donc les oiseaux, surtout ceux qui vont nicher au sol, on le réalise moins, hein, mais se font piquer par les tiques, comme je l'ai dit au tout début, vont aussi avoir un rôle actif dans la dispersion de ces tiques-là dans leur environnement et contribuent même à infecter une partie de ces tiques-là qui, après, posent des risques pour nous. Donc, évidemment, ça va être un enjeu. Puis, bon, il y a toutes les autres espèces dont qu'on va pas étudier nécessairement dans le projet, mais qui vont être très présentes et avec lesquelles on va devoir composer dans certains des parcs pour nos activités de terrain. Et je nomme les ratons laveurs, par exemple, parce que quand on va déposer dans la nature des appâts pour les rongeurs sauvages pour qu'ils puissent, comme je le disais, venir manger notre petite molécule les traiter contre les tiques. Oui. Les ratons laveurs, historiquement, sont aussi très attirés par ce genre de petits dispositifs et peuvent vraiment jouer avec, les détruire. On a eu un autre projet dans la ville de Bromont où est-ce qu'on a travaillé beaucoup avec eux, où on retrouvait nos petits appâts un petit peu partout. Certains étaient complètement défaits.
Ah oui.
Donc, on va devoir gérer ces espèces-là. Puis tout ce qui est, certains des parcs qui ont des coyotes aussi dans les parcs dans lesquels on travaille. Il faut aussi prendre en considération la présence de ces espèces-là. Donc, des espèces de toute taille, variées entre les genres et les différents groupes.
Oui, puis j'ajouterais peut-être qu'on a certains parcs aussi qui sont vraiment plus, comme on disait, des milieux humides, comme le bois de l'île Bizarre, où là, il y a des tortues aussi. On a vraiment une diversité de faune dans les parcs. Là.
Ça doit être amusant, intéressant pour vous, ce projet?
C'est surtout, je dirais, vraiment motivant, parce que moi, ça fait 8 ans maintenant que je fais le travail que je fais actuellement comme professeur à l'université où on a vraiment un mandat de recherche. Et puis, souvent, on est très spécialisé. Hein, quand on est rendu de faire de la recherche dans un contexte universitaire, moi qui suis vétérinaire de formation, qui travaillais sur les zoonoses, donc souvent, dans les projets qu'on a mis en œuvre dans le passé, c'était très ciblé sur la prévention des maladies transmises par les tiques. Et c'est la première fois pour moi que là, on prend un pas de recul dans ce projet-là, puis on essaie de réfléchir plus large que notre propre problématique qui nous intéresse aussi comme chercheurs, chercheuses, pour inclure des collègues qui viennent d'autres disciplines, qui viennent d'autres facultés, qui viennent d'autres universités, qui vont avoir soit des connaissances complètement différentes. J'ai parlé de Martin Leclerc, qui, lui, va suivre avec des colliers GPS les cerfs dans leur environnement. C'est un biologiste de la grande faune. On a Sarah Tettelbaum, qui s'implique, qui est une sociologue qui nous aide à structurer les activités qu'on fait avec le public, les ateliers, comment on va évaluer aussi tout ça, donc ces changements de comportement dont on parlait. Puis ça, c'est extrêmement enrichissant aussi de travailler avec des collègues de différentes disciplines et en collaboration avec ces organisations. Donc, on n'a pas parlé de la gouvernance de ce projet-là. On parle beaucoup des activités qu'on fait, mais comment on prend les décisions, c'est aussi très intéressant puis assez particulier comme projet de recherche parce que c'est un projet partenarial. Donc, on a, par exemple, un comité scientifique et quand on est tous présents au comité scientifique, on doit être à peu près 40 personnes autour de la table parce qu'il y a des représentants de nos chercheurs dans le projet, mais il y a aussi des représentants de chacune des organisations partenaires dont je vous ai parlé au début. Donc, soit municipale, provinciale, fédérale, Ouranos. Mais on a même des directions régionales de santé publique des régions dans lesquelles on travaille parce que chacune de ces organisations-là trouve son compte. On répond à une petite partie de leurs besoins, soit du côté de la santé publique, soit on a le ministère d'Environnement, Développement durable, Changement climatique. Je ne le dis pas dans le bon ordre, tous ces mots-là, mais vous voyez de quoi je parle.
Oui.
Donc, eux, l'enjeu de la conservation de la biodiversité est au cœur de leurs préoccupations. Peut-être moins la santé des humains, mais du ministère de la Santé, l'Agence de la santé publique du Canada, bien, eux, c'est leur préoccupation principale. Donc, en mettant tous ces gens-là autour de la table, bien, moi, j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse, créer des solutions innovantes et nouvelles aussi, avoir une façon de réfléchir différente que si on restait nous seuls autour de notre petite table dans notre petit laboratoire et surtout qui va être ancré dans les besoins des milieux, donc qui répond vraiment à des besoins de la société. Donc, c'est vraiment très motivant et enrichissant pour même pour nous en tant qu'individus là, d'agir et de travailler dans ce contexte-là.
Et Manon aussi, pour un projet de doctorat, c'est fascinant.
C'est fascinant. ça rajoute beaucoup de complexité, mais c'est très, très enrichissant. Puis je dirais aussi que c'est cette idée de voir ça dans une perspective très systémique, encore une fois, en termes de même quand on parle des comportements, se dire qu'en faisant en adoptant un seul comportement, on peut bénéficier à plein de choses. On va autant se protéger soi que protéger l'écosystème, que protéger les animaux. Puis c'est vraiment aussi cette idée-là de voir ça dans un tout qui est très enrichissant et qui permet, bon, c'est sûr qu'on sort beaucoup de notre zone de confort parfois, mais...
ça fait partie du plaisir.
Mais ça fait partie du plaisir, tout à fait. Puis engager les citoyens aussi, je pense que ça fait vraiment, en tout cas pour un doctorat, ça, tout de suite avoir la concrétisation de la recherche, c'est très enrichissant, tout à fait.
Alors, en tant que communauté, est-ce qu'on peut participer à ce projet et comment?
On peut y participer de différentes façons. On peut y participer en s'y intéressant. Hein. On a un site web qui est fonctionnel. Donc, si les gens sont intéressés d'aller voir vraiment ce qu'on fait en termes d'activité, de suivre même l'évolution du projet au fil du temps, il va y avoir des occasions de participer aussi au projet là, en tant que citoyen, comme dans le cadre
idées.
Du projet de Manon notamment. Donc, les gens sont vraiment invités à aller le visiter, puis participer lorsque c'est possible, quand il y a des activités ouvertes au public, comme participer encore une fois pour participer aux ateliers que Manon développe et va évaluer dans le cadre de son projet. Je pense que ça va être vraiment aussi intéressant et enrichissant pour les visiteurs des parcs dans lesquels on travaille.
Puis je pourrais rajouter qu'on a aussi des réseaux sociaux. Donc, on a le site web, mais on a aussi une page LinkedIn, on a une page Facebook. Donc là aussi, si les gens ne peuvent pas forcément participer et s'engager dans le projet de sciences citoyennes, ils peuvent aussi suivre comment le projet va évoluer et puis partager, se renseigner sur les différents enjeux auxquels on va toucher.
Et nous mettrons toutes les références sur notre site web. Cécile, mot de la fin peut-être?
Comme mot de la fin, j'espère que le projet va permettre aussi d'inspirer les visiteurs des parcs, les gestionnaires des parcs, les chercheurs de notre projet et nos organisations partenaires. Et puis, c'est une aventure qui ne fait que commencer, qu'on aimerait aussi pérenniser dans le temps.
Et Manon?
Comme mot de la fin, je dirais que les gens qui sont intéressés, participer en grand nombre, il y a beaucoup d'efforts qui ont été développés pour que ce soit une expérience intéressante pour tout le monde. Donc, on espère vraiment que ça va répondre à un besoin aussi de la communauté.
Alors, nous avons bien hâte de lire les résultats de votre projet. Cécile, Manon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne chance dans votre projet.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est de nouveau le temps de notre chronique « Le corps en marche » en compagnie de Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur, spécialiste en posture et bien-être. Bonjour Michel.
Bonjour Denis.
Vous nous parlez cette semaine, Michel, de nos pieds, car selon vous, tout commence par là.
Exactement. Quand on pense à la marche, on pense souvent au rythme, à la respiration, au plaisir de bouger ou d'observer le paysage, mais on oublie nos pieds. Pourtant, ce sont eux qui nous relient au sol à chaque pas. Ils sont notre base, notre fondation.
Comme vous dites si bien, on les considère à peine, on les prend ni plus ni moins pour acquis.
C'est vrai. On les cache dans des chaussures, on les oublie, on les immobilise. Et on les sollicite rarement de façon consciente. Mais ce sont eux qui amorcent le mouvement, qui transmettent les informations vers le reste du corps. Quand les pieds ne fonctionnent pas bien, c'est toute la posture qui en souffre, un peu comme une maison construite sur un sol instable.
J'aime bien cette métaphore de la maison, Michel.
Oui, parce que ça parle à tout le monde. Nos pieds sont des capteurs posturaux puissants, en lien constant avec notre cerveau. Il l'informe sur l'état du sol, la position du corps, les ajustements à faire pour rester stable et mobile. Mais quand ils sont affaiblis, rigides ou désorganisés, cette communication se brouille et les déséquilibres apparaissent, parfois très loin du pied lui-même. Personnellement, je le constate toutes les semaines là, dans ma pratique. Il y a des douleurs aux genoux, au bassin, au dos, qui trouvent leur origine dans un simple déséquilibre plantaire. Car oui, si la base est instable, le reste de la structure finit par compenser, souvent au prix d'inconfort ou de tensions chroniques.
Alors, on pourrait résumer, Michel, des pieds oubliés, mais combien essentiels.
Exactement. On vit dans une culture du haut du corps. Hein? On pense la tête, les épaules, les bras, parfois les abdos, mais les pieds passent souvent inaperçus. On les regarde à peine, sauf en été. Et on ne les sollicite presque jamais consciemment. Et pourtant, ils sont le premier point de contact avec le monde. Ils absorbent, s'adaptent, propulsent, informent et soutiennent l'ensemble de notre structure.
À vous écouter, Michel, on pourrait dire que ce sont de vrais chefs d'orchestre qui travaillent dans l'ombre.
Oui, ils travaillent en coulisses, mais leur rôle est fondamental. Ils recueillent des informations sensorielles en continu. Et ces signaux permettent au cerveau d'ajuster l'équilibre, la tension musculaire, l'orientation du corps dans l'espace. Mais quand ce système d'équilibre est brouillé, parce que le pied est soit affaibli, rigide ou mal sollicité, la posture devient instable et on perd en coordination ou en fluidité.
Oui, c'est vrai. Mes lectures sur la marche ont souvent évoqué la complexité de la structure du pied. Qu'en est-il au juste?
Ah, ben nos pieds, ce sont de vraies petites merveilles d'ingénierie vivante. Ils contiennent 26 os, 33 articulations, plus de 100 muscles, tendons et ligaments, sans compter les milliers de terminaisons nerveuses. Ils sont dotés de 3 arches principales, l'arche interne, externe et transverse, plus sur le devant du pied, qui jouent un rôle de ressort, d'amortisseur et de stabilisateur. Et grâce à leurs milliers de terminaisons nerveuses, ils participent activement à la proprioception, donc cette capacité à savoir où on est dans l'espace.
Et si on les néglige, Michel, quelles sont les conséquences?
Eh bien, ça crée un effet domino. Un pied affaissé, trop rigide ou déformé peut entraîner des douleurs aux genoux, un désalignement du bassin ou une surcharge au niveau du dos ou du cou. Et tout ça commence sous nos orteils.
Vous disiez tout à l'heure avoir constaté ces répercussions dans votre pratique.
Oui, j'ai des gens qui viennent pour des douleurs lombaires ou cervicales et en explorant un peu, on découvre que leurs appuis plantaires sont déséquilibrés. Donc, par exemple, quelqu'un qui évite de poser le talon ou qui transfère trop de poids sur une de ses jambes crée des compensations et tout le corps s'adapte autour de ce déséquilibre. Donc, moi, mon travail, c'est de remonter à la source du problème. Donc, pourquoi l'appui est débalancé? Est-ce que c'est un problème au niveau du pied lui-même ou une adaptation suite à un désalignement au niveau du haut du corps? Parfois, c'est vraiment le pied ou la cheville qui est instable. D'autres fois, c'est un déséquilibre plus haut, au niveau du bassin, de la cage thoracique ou même des épaules, qui vient modifier l'axe de gravité. Et là, l'appui tombe plus au bon endroit.
Ça semble confirmer ou être une autre démonstration que dans notre corps, tout est lié.
Exactement. Le corps, c'est une unité fonctionnelle. Donc, on ne peut pas parler de marche sans parler des appuis. C'est un peu comme vouloir jouer du piano avec des doigts engourdis. C'est pourquoi il est essentiel de réveiller les fonctions des pieds et de les réintégrer dans la marche posturale globale.
Alors, concrètement, Michel, on fait quoi?
Eh bien, Denis, on commence par enlever ses chaussures.
Oh, c'est bon!
Quand avez-vous marché pieds nus pour la dernière fois? Puis là, je ne parle pas de deux petits pas dans la salle de bain, là, mais vraiment sentir le sol sous vos pieds. La texture du bois, la fraîcheur de l'herbe, le grain du sable, c'est devenu rare.
Oui, c'est vrai.
Et pourtant, notre corps, il est fait pour ça. Donc, marcher pieds nus, ce n'est pas seulement agréable, c'est une expérience sensorielle, posturale et neurologique. Nos pieds regorgent de terminaisons nerveuses qui informent le cerveau en temps réel. Texture, pression, équilibre. Mais à force de les enfermer dans des chaussures, ils s'endorment et le système nerveux se désinvestit de cette zone. Donc, quand on enlève les chaussures, le corps se réorganise différemment. On devient plus attentif à sa posture, on engage mieux les muscles stabilisateurs et on marche avec plus de présence. Et les bienfaits sont nombreux. Donc, ça vient stimuler la proprioception, donc une meilleure conscience corporelle. Ça renforce les muscles de la voûte plantaire. Ça vient rééduquer les compensations posturales, en plus d'améliorer l'équilibre et la coordination.
J'ai lu dans un livre d'un moine bouddhiste que ceux-ci se promènent toujours à pied dans les temples. Mm-hmm. Et même l'hiver, ils ne portent pas de chaussettes. Ils ont des sandales, évidemment.
Avec les petites chaussettes spéciales, là. Oui.
C'est ça, oui. Donc, ça démontre bien, là, probablement, tous les bienfaits de marcher pieds nus. Donc, on peut s'y remettre. Mais vous suggérez progressivement.
Oui, il ne s'agit pas d'aller courir pieds nus sur l'asphalte, mais d'y aller graduellement, avec curiosité. Donc, si je vous donne quelques idées simples, vous pouvez marcher pieds nus chez vous, quelques minutes par jour, ou encore dans un parc, dans l'herbe ou sur le sable. Variez les textures, donc le bois, la mousse, les galets. Votre système nerveux va adorer. Et observez comment vos pieds travaillent ou ne travaillent pas. Est-ce que votre pied se déroule du talon aux orteils? Est-ce que vous repoussez le sol avec le gros orteil? Vous pouvez commencer avec 2-3 minutes, puis 5, puis 10.
Et puis, une bonne longue randonnée.
Oui.
Est-ce qu'il y a, Michel, des cas où il vaut mieux s'abstenir?
Oui. Donc, si vous avez des plaies, une neuropathie, un diabète mal contrôlé ou une instabilité importante, à ce moment-là, il vaut mieux consulter un médecin avant. Mais pour la majorité des gens, c'est non seulement possible, mais surtout souhaitable.
Et si on veut aller un peu plus loin, y a-t-il d'autres choses que l'on peut faire pour aider ses pieds?
Bien sûr. Je vous invite à faire ces gestes simples avec attention et présence. Donc, vous pouvez prendre une balle de tennis par exemple, et la faire rouler sous la voûte plantaire pour détendre les fascias et réveiller les capteurs sensoriels sous le pied. Vous y allez lentement, consciemment, un rayon à la fois. Donc, le rayon, on peut visualiser l'orteil vers le centre du talon. Ce serait un rayon, mm-hmm. On en a cinq. Oui. Donc, vous visualisez la ligne, par exemple, entre le gros orteil et le centre du talon. Vous roulez la balle sous le pied de l'orteil au talon, du talon à l'orteil. Ensuite, vous changez pour le deuxième orteil, deuxième rayon, et vous faites l'aller-retour ainsi de suite. Jusqu'au cinquième, vous pouvez revenir. Vous pouvez également mobiliser vos orteils. Donc, en essayant de les écarter, de les soulever, les bouger un à un. Il va falloir regarder les orteils parce que comme on ne parle jamais à nos pieds, bien, au début, ils n'écoutent pas. Donc, quand vous les soulevez ou les écartez, cherchez à les allonger en même temps. Vous pouvez même utiliser vos doigts pour les guider au besoin dans le mouvement. Au début, c'est difficile, mais plus vous leur montrez le chemin avec les doigts, plus ils finiront par y aller d'eux-mêmes. Prenez conscience de vos appuis. Donc, en position debout, vous pouvez commencer par observer le poids sous vos pieds. Est-ce que le poids est bien réparti entre le talon, la base du gros orteil, celle du petit orteil? Assurez-vous de déverrouiller les genoux. Et vous corrigez, si nécessaire, l'appui pour qu'il soit bien réparti entre ces trois points. Visualisez vos pieds comme des racines qui s'ancrent dans le sol.
En somme, Michel, des gestes simples, mais qui peuvent transformer la façon dont nous marchons et dont nous nous tenons.
Oui. On cherche souvent à aller plus vite, plus loin, plus haut. Mais parfois, tout commence par un bon enracinement. Prenez le temps de sentir le sol sous vos pieds. Prenez soin de vos pieds. Ils vous portent depuis toujours. Et ils peuvent vous mener loin, un pas à la fois. Alors, osez enlever vos souliers. Vos pieds vous en remercieront.
Merci, Michel, pour cette belle invitation à prendre conscience de l'importance de nos pieds et surtout d'en prendre soin pour notre plus grand bien-être.
Merci, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités, Cécile Anis-Ensline, Manon Boiteux et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à Charles Saint-Laurent-Carrier à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Marty Rubin. Les parcs sont les terrains de jeu de l'âme. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.